Chaque nuit, je vois vos visages. Chaque nuit, j'entends vos voix. Chaque nuit, je vous sens là, près de moi. Yvonne, Germaine, Geneviève, André, Marguerite, mes sœurs de combat, mes compagnes des ténèbres, vous n'êtes plus de ce monde, mais vous m'accompagnez à tour de rôle. Jacqueline Fleury, mariée ce soir, notre invitée à l'occasion de la publication de son livre intitulé tout simplement « Résistante ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec « L'Ave Maria » de Schubert, interprétée par Barbara Hendricks. Je voudrais qu'on parle de votre grand-père, Jacqueline, Georges Marcel, qui a été arrêté le 21 septembre 1914.
Oui, et qui a été déporté pendant toute la guerre de 14-18. Et déporté civil, en plusieurs camps. Et ma mère, qui a été emprisonnée aussi, d'ailleurs. Et c'est une période qui a marqué toute notre vie, enfin la vie de la famille. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle nous sommes rentrés très tôt en résistance. C'est cette famille qui a déjà eu une période extrêmement terrible, même de la Première Guerre mondiale. Et à la suite, c'est la Deuxième Guerre mondiale, avec toute la famille aussi.
En ce jour de commémoration nationale, vous dites à l'intérieur de ce livre, Jacqueline Fleury-Marié, que la guerre a toujours fait partie de l'univers familial, aussi bien dans la génération de vos grands-parents, votre grand-père déporté, votre mère aussi, mais aussi dans le reste du clan familial. Cette guerre de 14-18 qui s'efface progressivement de notre mémoire, mais qui pourtant a empoisonné l'existence de vos grands-parents, cette guerre qu'on essaye de restituer grâce à la muséographie, grâce aux témoignages. Vous qui êtes né en 1923, en Allemagne d'ailleurs, quel souvenir ou quelle mémoire en avez-vous encore?
J'étais encore très très enfant lorsqu'on allait beaucoup en vacances chez nos grands-parents. On traversait beaucoup de plaines où il y avait beaucoup de cimetières militaires dans le Soissonnais, et il y en a encore énormément d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui nous avait beaucoup marqué aussi, mon frère et moi-même. Et puis il y a eu la reconstruction de la vie familiale. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour cette famille justement qui a tout perdu en 14-18 et qui a reconstruit sa vie. Et j'ai surtout gardé une très grande admiration pour ma mère, et je pense que ça se comprend. Elle a été fille de déportée de la guerre de 14-18. Elle a été elle-même emprisonnée et elle sera déportée, mère d'une déportée, ma petite personne, et épouse d'un déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est quelque chose de très très lourd et qu'elle a porté avec beaucoup de dignité, de force et de courage.
À l'intérieur de votre propre famille, on a l'impression, Jacqueline Fleury-Marié, que l'idée même de soulèvement contre l'ennemi, en l'occurrence l'Allemand, faisait partie de l'ADN.
Oui, il y a certainement quelque chose qui nous a marqué, même enfant, je pense, et qui est resté, et qui a fait que, dès les débuts de l'occupation, pour nous, cette occupation était indigne, il fallait pouvoir peut-être faire quelque chose, et si on pouvait faire quelque chose contre l'occupant.
Vous vous souvenez du jour où la France est entrée en guerre et comment vous l'avez-vous appris?
En 39, vous
voyez, oui, en 39.
Oui, bien sûr. Je pense que nous l'avons appris par la radio. Et nous avons beaucoup discuté avec notre maman. Mon père étant militaire était déjà parti. Et pour elle, c'était comment dirais-je, au bout de 20 ans, entre deux guerres, 20 ans entre deux guerres, c'est pas beaucoup d'années. Et pour elle, c'était extrêmement douloureux, évidemment. On peut le penser facilement.
Contrairement à beaucoup de Français, votre famille comprend tout de suite ce que sont les accords de Munich. Et quand Daladier va revenir ovationné par la foule, vous, à l'intérieur de votre cercle familial, vous avez compris que le pire allait advenir.
Oui, Daladier n'a pas été applaudi dans la famille, hein, pas du tout, du tout. Et au contraire, on sentait très bien une certaine anxiété chez nos parents. Et nous qui avions vécu longtemps en Alsace, nous avions eu des amis alsaciens qui étaient rentrés dans leur pays depuis peu de temps. 20 ans, comme je dis, c'est peu d'années. Et qui allaient souffrir terriblement, bien sûr, de ces nouvelles arrivées de l'occupant.
Et lors de l'entrevue Pétain-Hitler à Montoire en octobre 1940, votre père, là, tout de suite, comprend aussi les enjeux. Et il vous en parle.
Oui, je pense aussi pour tous les deux. Enfin, pour nos parents, c'est un drame. C'est quelque chose qu'on doit rejeter complètement. Et Pétain, qui était resté quand même quelqu'un d'assez, surtout dans le monde militaire, était resté un héros, on peut dire, bien sûr, va perdre cette qualité, on va dire, de héros dans la famille, en tout cas complètement et très vite.
On a l'impression que, alors que vous êtes très jeune, Jacqueline, vous allez rentrer, on peut même pas dire que vous allez entrer en résistance, vous y êtes déjà d'une certaine façon. Dans les pages que vous consacrez à votre entrée dans la résistance, rien de plus normal, rien de plus banal, rien de plus naturel.
Oui, et peut-être aussi avec une chance d'avoir un professeur qui va être engagé aussi très tôt dans la résistance, qui sera au fond un premier contact pour moi. Et puis, bien sûr, cette famille, mon frère qui va très tôt entrer dans un réseau de renseignement, et puis maman qui ouvre son foyer à la résistance.
Alors, ça voulait dire quoi pour vous, qui étiez une très jeune fille, les premiers jours d'entrée dans la résistance ?
C'était, mais comme je vous l'ai dit au début, le refus de cette occupation qui va devenir très dure, qui est difficile. La partie de la France occupée vit difficilement et très vite. On va assister au pillage, évidemment, et notre vie va être très, très, très dure. Et bien sûr, nous le vivons tout de suite, hein, très, très vite.
Et pour vous, ce n'est pas difficile d'appartenir à un réseau de résistance. Je dis ça, Jacqueline, parce que il y a des intellectuels, dont certains très connus, comme par exemple Jean-Paul Sartre, qui ont écrit dans leur carnet de guerre qu'ils voulaient rentrer dans la résistance, mais ils avaient beaucoup de difficultés pour rencontrer quelqu'un qui puisse les faire rentrer. Oui. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ce mot « entrer dans la résistance » ?
Oui, c'est un peu vrai. Il fallait avoir des contacts. Il y a des gens qui auraient voulu et qui n'ont jamais eu cette possibilité. Ça, évidemment, ça a été extrêmement important. Mais bon, il y en a aussi qui ont aimé ne pas avoir ces contacts. Et moi, je dois dire que peut-être par cette vie d'enfance que nous avons eue un peu particulière, il faut bien dire particulière. Vous savez, nous avons vu reconstruire la maison de nos grands-parents. Elle a fini d'être construite en 37, donc peu de temps avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que ça nous avait, tout cela nous avait marqué. Et nous avait peut-être préparé un peu à ne pas accepter ce qui se passait en France par l'occupation.
Mais sans forfanterie.
Oh non, pas du tout. Sûrement pas.
C'était normal.
Je pense aussi, si vous me permettez, je pense aussi que le fait que notre mère acceptait ce que nous avons fait, quand je lui ai rapporté les journaux clandestins à la maison, elle me dira pas, mais il faut pas de ça ici, pas du tout. Elle les lira.
Et elle ouvrira sa porte et elle à ouvrira toutes sa celles porte et ceux qui sont en difficulté et qu'il faut cacher.
Voilà, oui, tout à fait.
Je vous propose d'écouter l'appel du général de Gaulle à la résistance et l'archive du 18 juin 1940.
Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi.
Cet appel, vous n'allez pas l'entendre,
non,
Jacqueline.
Non, pas du tout. Non. Mais par contre, l'asservissement de la France, on le vit très vite, très très vite. Et je pense que là, nous avons suivi le général de Gaulle, justement, dans tout ce qu'il vient d'écouter. Là.
Vous le vivez au quotidien, quand
voilà,
vous voyez l'occupation.
On va le vivre au quotidien, tout à fait. Oui.
Et ça... Et vous êtes la plus jeune de ce groupe de résistants?
Ah oui, Défense de la France, j'étais la plus jeune, j'étais encore lycéenne tout au début, et voilà, et les années vont passer, je vais rester dans la résistance.
Alors vous commencez par des tâches qui ne sont en apparence pas trop compliquées, mais qui peuvent vous coûter la vie, comme de transmettre des messages, d'aller apporter des plis, de cacher des journaux, et puis petit à petit, votre rôle s'amplifie. Naturellement, là aussi.
Oui, il y aura d'abord Défense de la France, donc le transport et la diffusion du journal qui portait le même nom, et qui était quelque chose de très difficile et de dangereux. Il fallait aller les chercher dans Paris, à différents endroits, les transporter avec tout ce qu'il y avait de dramatique à l'époque, c'est-à-dire des métros qui marchaient peu souvent, des trains, il y en avait très peu, et puis les apporter dans différents endroits, bien sûr, et les répartir, les distribuer. Et puis, au moment de l'arrestation, en juillet 43, il y aura beaucoup d'arrestations dans la Défense de la France. Je rejoindrai mon frère, donc qui est dans un réseau de renseignement. Je suis donc devenu membre de Mithridate, du réseau Mithridate.
Alors, ce réseau Mithridate va vous confier des tâches encore plus importantes. Votre frère aura eu des missions extrêmement aussi difficiles. Capital pour l'histoire de la résistance en France. Il va d'ailleurs être obligé de fuir, de se cacher. Donc l'angoisse familiale va monter à l'intérieur du clan familial. Il y a votre mère qui prend des risques considérables. Il y a votre frère qui est encerclé par les nazis. Il y a vous qui prenez aussi des engagements de plus en plus importants. Et par définition, la résistance s'est cloisonnée. Personne ne parle à personne.
En principe, il fallait avoir très peu de contacts et connaître très très peu de personnes d'un même réseau.
Et dans la famille, alors, on pouvait se parler?
Dans la famille, naturellement, nos parents voyaient très bien ce que nous, quand même, ils approuvaient d'ailleurs ce que nous faisions. Et je reviendrai un peu sur le réseau Mithridate avec ce qui s'est passé à Versailles. Il y avait à Versailles les plans du mur de l'Atlantique. Je pense que c'est quelque chose de très important à rappeler, notamment aux Versaillais qui ne le savent pas.
Alors vous pouvez expliquer ce que c'était que ces plans et pourquoi ils étaient à Versailles.
Les plans des murs de l'Atlantique, donc ce qu'avaient construit les Allemands tout le long de la côte, et une grande partie de ces plans vont se trouver au château de la Mée, donc un lieu versaillais. Et mon frère, qui parlait remarquablement l'allemand, en a subtilisé. Nous étions quelques jeunes filles à les recopier dans un endroit versaillais.
Une arrière-cuisine de restaurant,
voilà,
dites-vous.
Exactement, rue du Maréchal Foch, en plein Versailles d'ailleurs. Et ces plans partaient, rejoignaient la France libre. Ensuite, des camarades de défense de Mithridate qui les faisaient parvenir par l'intermédiaire de petits avions qui donc emmenaient ces renseignements vers Londres. C'est très très simple comme explication peut-être, mais je pense qu'on peut très bien comprendre les difficultés et tout ce qu'on risquait surtout. En faisant cette chose extraordinaire.
Alors, vous avez passé des nuits et des jours entiers à recopier ces plans de défense, et vous dites d'ailleurs dans votre livre de manière assez drôle que, évidemment, les iPhones n'existaient pas pour pouvoir prendre des photos. Et donc, vous avez continué, et ensuite, on vous a donné la mission d'essayer de repérer aussi les endroits d'où les radios diffusaient.
Oui, mon frère est accompagné d'un garçon qui avait sa radio et qui a qui envoyait les messages d'ailleurs en, à Londres. Et il fallait trouver des endroits très différents, jamais, en principe, ne jamais envoyer ses messages au même endroit. Donc il fallait trouver des lieux pour le radio. Et c'était extrêmement difficile parce que les portes qui s'ouvraient étaient rares. Et lorsqu'on savait que j'étais accompagnée d'un poste de radio et d'un garçon qui allait émettre, en général la porte se refermait. Et j'aurais pu, je peux comme ça suivre ça, et si vous voulez, pas à pas, dans certains endroits où cette porte s'est fermée à notre nez.
Vous rendez un hommage particulier dans votre ouvrage, Jacqueline, aux résistants chargés des transmissions radio, parce que vous nous expliquez, je ne le savais pas personnellement, à quel point il fallait être techniquement efficace, mais il fallait être aussi physiquement très, très, très courageux et très entraîné pour pouvoir assumer ce double rôle. Et vous citez, j'aimerais bien qu'on parle de ces deux femmes-là totalement inconnues, Violette Zabot et Denise Bloch, deux parachutistes héroïques que vous allez connaître plus tard en déportation.
Oui, nous allons être déportés d'ailleurs avec plusieurs d'entre elles, et qui seront d'ailleurs toutes assassinées à Ravensbrück. Elles sont nos compagnes dans plusieurs camps. Et moi, j'ai gardé une admiration extraordinaire pour ces jeunes femmes qui ont d'abord subi un entraînement tout à fait très dur, hein, surtout pour des femmes à l'époque, c'était pas très courant, et qui vont être donc parachutées en France, dans différents endroits, et vont, avec leur poste de radio, vont émettre et vont, pour beaucoup, malheureusement, être arrêtées. Beaucoup seront, comment dirais-je, interrogées durement.
Et ne parleront pas.
Et ne parleront pas. Et plusieurs seront d'ailleurs dans mon convoi. J'ai gardé un souvenir très, très précis de plusieurs, qui étaient des femmes admirables qu'on a complètement oubliées. Et je viens d'écrire un petit article sur elles qui va paraître dans un petit journal de notre association.
Vous évoquez souvent vos camarades, notamment les femmes que vous allez retrouver ensuite au camp de concentration, mais vous dites aussi, avec la mise en perspective historique que nous pouvons avoir aujourd'hui en 2019, vous faites remarquer, je vous cite, Jacqueline, « Parmi les 1038 compagnons de l'Ordre de la Libération, institué par le général de Gaulle en 1940, il n'y eut que 6 femmes. 6 femmes sur 1038 combattants distingués. Pourquoi si peu ?»
Grande question. Pourquoi si peu? Je crois que les femmes, au fond, n'auraient peut-être pas dû pour les hommes, n'auraient peut-être pas dû se trouver dans la. Et pourtant, je crois que la résistance n'aurait pas été ce qu'elle a été sans les femmes. On pourrait en citer. Et moi, je pense aussi aux femmes des PTT qui ont fait des choses extraordinaires. On a parlé des parachutistes. Je pense aux infirmières. J'ai une camarade qui vient de mourir, qui était infirmière au Vercors. C'était aussi une de mes compagnes de déportation. Il y aurait beaucoup, beaucoup d'exemples. Et celles qui ont aidé beaucoup, les maquis aussi, les maquisards. Il y en a eu absolument dans toutes les formes de résistance. Et la résistance dans les camps, on pourrait peut-être en parler aussi. Elles, beaucoup, le seront encore dans les camps.
Elles vont continuer dans les camps et vous nous restituez cette résistance de manière magistrale à l'intérieur de cet ouvrage, Jacqueline Fleury-Marié. Je voudrais qu'on évoque les conditions de votre arrestation en juin 44. La Gestapo n'a jamais lâché votre frère et c'est dans le cadre de la recherche de votre frère qu'elle va faire une nouvelle descente chez vous et c'est là que vous allez être arrêté avec votre père et votre mère.
Oui, et emmené à Fresnes, puis emmené à Fresnes dans des cellules séparées, ce qu'on appelait au secret. Je pense que là aussi, tout le monde peut comprendre pourquoi le secret, c'est-à-dire pour qu'on ne puisse pas se parler, évidemment, ni même avec ma mère. Et nous étions emmenés à Paris, dans différents endroits, pour être interrogés par la Gestapo.
Ça a duré combien de temps?
Alors là, c'est une question. je saurais exactement, je saurais pas comment. Je sais pas. Mais plusieurs fois, plusieurs fois.
Dans cette prison, vous arriverez néanmoins à pouvoir communiquer avec certaines autres détenues et organiser un petit mouvement de solidarité malgré l'emprisonnement.
Alors, quand, même quand on était au secret, nous arrivions à communiquer par... moi, je parle de camarades très jeunes qui, comme moi, avaient fait notamment du scoutisme et qui... Et nous arrivions à communiquer par... non seulement par les bruits des murs ou par les... Nous avions un tuyau d'eau pour, bien sûr, nos toilettes dans les cellules. Et par ces tuyaux, nous arrivions à faire du morse. Et c'est comme ça que nous arrivions aussi à nous aider un peu au retour des interrogatoires de la Gestapo. Quand nous rentrions très abîmés, d'une cellule à l'autre, nous arrivions... à nous aider un peu par la parole, enfin par la parole du morse. Et au fond, nous sommes beaucoup d'entre nous se sont connus d'abord par la voix et morse, bien sûr, et nous nous connaîtrons seulement nos visages, soit dans le transport, bien sûr, et dans les camps, évidemment. Et nous avons... Il y a un journal à notre tour que nous avons appelé Voix et Visage, parce qu'il rappelait justement tout ce que nous avions vécu déjà dans les prisons.
On va vous sortir de prison, les Allemands vont vous sortir de prison pour vous emmener dans un convoi. On vous emmène à une gare, on vous met dans un train avec d'autres détenus et vous ne savez pas pour où. Vous allez partir. Personne ne vous dit rien, mais par contre, là aussi, et ça c'est extraordinaire, c'est que à chaque fois il y a de la solidarité entre vous, y compris dans les circonstances les plus effroyables. Vous chantez des chansons, vous vous donnez du courage entre vous, même si vous vous voyez pas.
Il y a eu surtout dans ces wagons, moi je ne peux parler que du mien bien sûr, où nous étions autour d'une centaine de femmes, avec, alors, presque toutes, en tout cas, c'est une grande importance de le lire, je crois, des résistantes. Beaucoup parmi nous, presque toutes, nous étions passées dans les mains de la Gestapo. La plus marquée d'entre nous avait été écartelée, et nous l'avons installée dans l'angle du wagon pour qu'elle ne soit pas trop piétinée et qu'elle puisse un peu rester sans trop bouger. Beaucoup d'entre nous étions blessés. Et nous avions un grand seau d'eau et un autre seau pour nos besoins. Alors je crois qu'on peut imaginer ce qu'était déjà le fait de se servir de ce seau a été difficile. Et notre parcours, bien sûr, va durer plusieurs jours. Et avec des épisodes assez particuliers, comme celui de Nanteuil-Sassy, avec justement ce que vous nous avez tout à l'heure... nous avons permis d'écouter l'Ave Maria de Schubert qui était chantée par une de mes compagnes alors que les Allemands criaient le long de la voie. Et il y avait tout à l'heure pour moi un mélange de cette Ave Maria extraordinaire et des hurlements, des cris, des SS qui parcouraient la voie. Et nous étions enfermés dans un train sans savoir ce que nous allions devenir. Et nous commencions à ne plus pouvoir respirer. Donc nous avons, je crois, toutes pensé que nous allions mourir étouffés. Et c'est à ce moment-là qu'une de mes compagnes a chanté l'Ave Maria de Schubert dans un silence assez extraordinaire. Parce que nous ne savions pas, nous étions très très anxieuses.
vous arrivez le 21 août 1944 au camp de femmes de Ravensbrück, Jacqueline Fleury-Marier. Et là, ce qui me frappe beaucoup en lisant cet ouvrage qui s'intitule « Résistante », c'est à quel point, là aussi, la solidarité entre vos camarades va fonctionner alors que vous ne comprenez pas où vous êtes. Personne ne vous dit rien. Vous subissez l'inhumanité, mais entre vous, ça continue à exister. Là, ce que vous nommez d'ailleurs magnifiquement la bulle d'humanité.
Oui, tout ce qui est, d'ailleurs, cette solidarité avait été extrêmement importante dans le wagon pendant tout le voyage. Et lorsque nous arrivons à Fürstenberg, la petite gare à côté de Ravensbrück, nous serons obligés de marcher pendant plusieurs kilomètres avant d'atteindre le camp. Et bien sûr, nous nous entraidons aussi, les plus marqués par, comme cet ami qui, bien sûr, nous sommes obligés de porter. Et lorsque nous entrons dans ce lieu, que nous ne savons pas où nous sommes, nous ne savons rien du tout, et pénétrer dans un camp, je pense que tous mes camarades qui vivent encore vous le diraient aussi, et tous ceux qui sont partis vous l'aurez dit, quand on a pénétré dans un camp, on n'en sort jamais complètement. Et ce que nous allons vivre à partir de ce moment va être absolument horrible, terrible, et heureusement qu'il y aura cette solidarité, cette entraide. Et c'est là où je vais retrouver d'ailleurs ma mère.
Et certaines d'entre vous, dont vous faites partie, font acte, on ne peut pas dire de résistance, mais c'est quand même de la résistance vis-à-vis des Allemands qui dirigent le camp et des Allemandes SS.
Oui, ça sera d'ailleurs encore au fur et à mesure des jours et des mois qui vont passer, quelque chose de très important, notamment lorsqu'on va nous obliger à travailler pour le Grand Reich, c'est-à-dire pour l'armée allemande, alors que nous pensions être traités comme des prisonniers de guerre, ce qui n'était pas notre cas, évidemment. Et lorsque nous avons refusé de travailler dans une usine de matériel allemand, nous l'avons fait plusieurs fois et nous avons fini par être emmenés dans un camp pour faire uniquement des travaux extérieurs, comme décharger des wagons de charbon ou tirer un rouleau sur les routes. Enfin, voilà, c'était un... Et jusqu'au départ du 13 avril 1945, où nous serons jetés, comme beaucoup, beaucoup de déportés d'ailleurs, sur les routes d'Allemagne pour ces marches terribles, qui sont ce que nous appelons entre nous les routes de la mort, qui sont d'ailleurs ce qui était bien, ce qui nous attendait, c'était la mort. Ces marches nous amenaient à la mort. Et...
Comment avez-vous célébré Noël 1944 à l'intérieur du camp de Ravensbrück ?
Alors ça, nous étions dans... Je suis passée par quatre camps. Et là, celui-là était à Terroda. Alors nous avons réussi à faire une crèche, un groupe de camarades, avec tout ce qui nous était interdit, c'est-à-dire même un bout de tissu de nos robes, même ramasser un morceau de bois sur la route, et encore moins ramener des petites choses de l'usine. Et nous avons fait une crèche tout à fait extraordinaire, qui est bien sûr pour moi la plus belle crèche que j'ai jamais vue, et qui a été tellement étonnante, même pour nos SS et nos officierines. Et nous avons pensé que nous allions être punis lorsqu'ils découvriraient ce qui avait été fait de nos mains. Et je crois, et pourquoi, personne peut-être, on ne sait pas pourquoi au fond, au lieu d'être punis, nous avons été non pas admirés, mais enfin on nous a laissé garder même les personnages de cette crèche. Et je crois que j'ai une ou deux camarades qui ont réussi à revenir avec un personnage sous leur robe. Enfin, voilà. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Comment vous sont parvenus à l'intérieur du camp, Jacqueline, les échos de la libération?
Alors, il y aura d'abord la libération de Paris, qui qui nous sera appris par Joseph de Gaulle, qui était dans le camp depuis un petit moment, et qui, alors les informations, si l'on peut dire, ce qui se passait dans le monde, nous arrivaient difficilement, bien sûr, si ce n'est par nos camarades qui parlaient l'allemand et qui travaillaient notamment dans les bureaux ou dans les casernes des SS, et où il y avait évidemment des radios qui marchaient aussi, et elles avaient l'oreille très attentive à tout ce qui pouvait leur... les atteindre et nous les rapporter dans le camp. Et c'est Geneviève qui est venue, alors que tout était interdit, hein, nous n'avions pas le droit d'aller d'un bloc à l'autre. Geneviève a parcouru un petit peu une partie du camp pour aller dans les blocs où il y avait des Françaises pour nous apprendre la libération de Paris. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Paris libéré, pour nous, c'était... D'abord, nous étions joyeuses intérieurement, nous, il fallait pas le montrer. Et Geneviève, qui était déjà très très malade et très diminuée physiquement, avait fait cet effort pour venir apprendre cette nouvelle extraordinaire à toutes les Françaises du camp. Et ça, c'est un souvenir tout à fait extraordinaire aussi que je garde.
Vous aussi, vous avez été très malade à l'intérieur du camp. Et quand ensuite vous avez pu sortir de ce camp, vous étiez en très mauvais état physique. Dans quelle source de vie et de vitalité avez-vous puisé, Jacqueline, pour pouvoir résister à ce que vous avez nommé tout à l'heure les routes de la mort et que Primo Levi a si bien décrit dans son livre ?
Oui, les routes de la mort. Pourquoi il y a eu des survivants de ces routes, c'est un grand point d'interrogation, parce que là aussi il y a eu celle qui a tendu la main, qui a aidé une à marcher, car faire un pas devant l'autre, c'était devenu quelque chose de terrible, extraordinaire. Nous avions les pieds en sang, nous n'avions plus de nourriture du tout, nous buvions l'eau dans les flaques d'eau. Et nous pensions d'ailleurs, les unes et les autres, ne pas survivre. Et quand on ne pouvait plus marcher, on était abattu. Et voilà, mettre un pied devant l'autre, c'était vraiment héroïque, difficile. Et tendre la main ou partager un brin d'herbe. J'ai toujours, moi qui suis allée dans beaucoup d'établissements, j'ai toujours dit aux enfants que je savais ce qu'était partager un brin d'herbe. Pourquoi partager un brin d'herbe? Comme nous n'avions rien à boire, sucer un petit morceau d'herbe, ça apaise cette soif effroyable que nous avions. Et comme nous n'avions pas le droit même de cueillir un brin d'herbe, je ne sais pas si on peut imaginer cela, eh bien le partager, le partage du brin d'herbe, je trouve que c'est quelque chose de miraculeux, extraordinaire, et qui montre jusqu'où a été la solidarité entre nous. Et ça a été une importance capitale. C'est ce qui a permis de sauver certaines de mon groupe.
Dans le dernier tiers de votre ouvrage, Jacqueline Fleury-Marié, vous évoquez en termes extrêmement acides le retour à Paris. Vous n'êtes pas la seule, puisqu'il y a d'autres femmes qui ont témoigné de ces difficiles retours, notamment Irène Némirovski dans un livre remarquable. Mais vous, et Simone Veil aussi, en a pas mal parlé, oui, des difficultés de sa réinsertion à l'intérieur de cette France qui ne vous attendait pas, finalement.
Non, pas du tout. Pas du tout, il faut revivre par nous-mêmes, il faut garder le courage, même au-delà du retour. Et oui, c'est vrai, enfin, en tout cas, à Versailles, nous, personne n'est venu nous aider.
Vous avez sonné à la porte de la maison et votre père...
C'est mon père qui nous a ouvert.
...était là. Oui. Et vous n'aviez aucune nouvelle depuis l'arrestation.
Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Et il avait été rapatrié de Buchenwald en avion, je suppose pour venir mourir en France. Et il venait de regagner l'appartement familial. Et c'est lui qui nous a ouvert. Et je crois qu'on peut imaginer ce qu'a été ces retrouvailles. Et ça, je ne peux pas le... Personne ne peut comprendre, enfin, si, peut-être imaginer, mais moi je l'ai vécu. Et ça, c'est un souvenir aussi extraordinaire, extraordinaire.
On ne revient jamais des camps. C'est vous qui écrivez cela, Jacqueline. Et pourtant, il faut bien que la vie reprenne. Ne pas ressasser, faire face, évacuer les questions aberrantes dont nous sommes assaillis. Ces gens qui doutent de notre épreuve et qui nous demandent par exemple « Ah bon, vous n'avez vraiment rien à manger? Mais vous pouviez quand même aller acheter de la nourriture dans un mess, non ?» Ou alors, les questions qu'on me posait étaient toujours les mêmes. Alors, est-ce qu'on vous a violé?
C'est vrai, ce sont des questions qui revenaient le plus souvent. Et qui nous déplaisaient, bien sûr. Et c'est pour, au fond, c'est très difficile à exprimer ce qu'on pouvait ressentir après des questions aussi. Bête, je dirais bête. Voilà, tout simplement. Je pense que, oui, je pense que c'est une bêtise incommensurable.
Vous avez décidé, vous étiez très jeune quand vous revenez dans votre propre pays, la France, vous avez décidé de construire la vie avec la continuité de ce que vous aviez enduré, ou vous avez décidé de reconstruire votre vie?
Oui. Oui, c'est vrai. Et ce que j'ai fait d'ailleurs. Et je crois que, d'abord je me suis mariée, j'ai eu une famille, et je crois que la naissance de mon premier enfant a été non seulement une très grande joie, mais c'était la vie qui recommençait, donc il n'avait pas gagné, et ça a eu une grande importance pour moi, très très grande importance. La vie recommençait. Au fond, c'est ce que mes grands-parents et maman avaient déjà vécu. La vie avait recommencé. Et pour moi, c'était aussi la même chose.
Vous êtes là devant moi, Jacqueline. Vous avez un pull rose vif. Vous avez une très belle, un très beau foulard bleu. Vous êtes maquillée. Vous êtes coiffée. Vous avez des jolies boucles d'oreilles. Vous avez l'air d'être une jeune femme. Comment résistez-vous comme ça à l'usure du temps? C'est parce que vous passez votre énergie, votre temps à aller parler aux plus jeunes pour leur expliquer que la mémoire, c'est important?
Il y a eu certainement ça, oui, ça c'est sûr. J'ai fait ça pendant 60 années.
Ah, parce que vous le faites plus?
Si, je le fais encore un peu. Ah. Enfin bon, mais là, ça devient très, très difficile, très fatigant. Mais je suis encore dans le concours que j'ai créé avec mes camarades. Et je pense
quel concours?
Le concours de la résistance et la déportation, qui est ouvert à beaucoup d'établissements, dans toute la France d'ailleurs, et qui a commencé dans les années 61, si je ne me trompe pas, donc ça fait presque 60 années que je fais, que je suis allée vers les jeunes, et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, ce contact avec les étudiants et lycéens d'ailleurs, et même des troisièmes, donc des plus jeunes, a eu une grande importance pour moi. Et je crois que cette jeunesse est très à l'écoute de ce qu'on peut leur apporter par nos récits. Maintenant, c'est plus difficile, nous sommes presque plus que quelques-uns à pouvoir le faire.
Seuls, nous n'aurions jamais survécu, c'est de cela que je veux témoigner. Témoigner de ce que nous avons vécu jusqu'à mon dernier souffle, avant que le monde oublie. Ce sont vos dernières phrases de votre livre. Merci infiniment, Jacqueline Fleury-Marié. Merci pour ce que vous êtes et toute mon admiration. Je pense que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment éprouvent le même sentiment que moi. Et merci aussi d'avoir publié ce récit avec Jérôme Cordelier qui s'intitule « Résistante » et qui vient de paraître aux éditions de Calman Lévy. Merci infiniment.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid. Ces gens de Paris sur la plage du Crotoy. en face de Saint-Valery. Les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage. Derrière I'm 50s, I'm 50s. Dans le radiola, André Verschuren, les enfants soldats. Dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle. Sur la route ravie, en arrond de plein ciel, qui rentre à Paris. I'm 50s. I'm 50s. Rue Campagne Première, personne le ramasse. Quand il tombe par terre, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Au salon de l'auto sous le dos, touche pas au Grisby du con. Dans sa vedette Vendôme, Gabin Bougon, Jeanne la Fatale, file au festival à 200 à l'heure, dans le train Mistral, y a un coiffeur.
Et c'est avec Alain Souchon que nous allons nous quitter ce soir. Avec les remerciements, mes remerciements pour Kevin Pelot qui était à la technique ce soir. Merci aussi à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard, Louise Douillet. Merci à Jean-Baptiste Audibert et à Lilian Allôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka pour le début de son Very Very Good Trip.